Vous écoutez Radio Kapi, il est 8h à Nsonankulu au Congo central, une heure de plus à Malimbankulu dans le Grand Katanga. Voici la seconde édition du journal de cette matinale.
Radio Kapi.
Oh Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Congolais Téléma ou Congolais Lève-toi, c'est l'intitulé de la campagne nationale lancée hier à Kinshasa par la première ministre. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du Front populaire que mène la RDC et le Congolais a intérêt à défendre sa patrie où qu'il soit, a dit Judith Souminoua. Au procès des forages et lampadaires, la défense de l'ancien ministre condamné à 3 ans de prison continue de contester cette condamnation prononcée lundi par la Cour de cassation. Dans une conférence de presse hier à Kinshasa, l'avocat principal du condamné annonce qu'une requête sera déposée incessamment auprès de la Cour constitutionnelle. Et puis, Kasaï Oriental, ces ateliers de vulgarisation de la loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents et fonctionnaires de l'État, ils ont débuté vendredi à Mbujimayi. Pour en parler, nous recevons Amsini Sharon, chef de département à la CNSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais d'abord, cette information, Seth Kikuni, Mike Mukebayi et l'influenceuse Denise Mukendi ont quitté la prison centrale de Makala hier samedi. C'est à la suite d'une décision de liberté conditionnelle prise par le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba. Selon des sources gouvernementales, cette libération s'inscrit dans la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi de détendre le climat sociopolitique dans un contexte marqué par le conflit armé dans l'est du pays. Madame, Messieurs, bonjour. La première ministre Judith Souminoua a lancé hier la campagne nationale intitulée « Congolais Téléma », traduisée en français « Congolais, lève-toi » pour défendre le pays contre l'agression rwandaise. Cette campagne a été lancée en direct de la télévision nationale RTNC au studio Mama Ngebi à Kinshasa. La chef du gouvernement a expliqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre du front populaire que mène la RDC aux côtés des fronts militaires, diplomatiques, médiatiques, judiciaire et économique pour repousser les agresseurs hors du pays. Judith Souminoua explique également qu'à travers cette initiative, les Congolais ont intérêt à défendre leurs terres partout où ils se trouvent, au pays comme à l'étranger. Voici un extrait de la déclaration de la chef du gouvernement congolais proposée par Blaise Shindani Kambala.
Mes chers compatriotes, chères Congolaises et Congolais, ma chère nation, nous sommes en guerre. Notre mère patrie est menacée. Notre voisin, le Rwanda, et ses supplétifs du M23 AFC ont décidé d'un plan de destruction de notre nation en menant une guerre meurtrière sur notre territoire. Ce n'est pas la première agression ni la première guerre que le Rwanda mène sur notre territoire pour ses visions expansionnistes et le pillage systématique de nos ressources naturelles. Cette guerre a trop duré. 30 ans, ça suffit. Mais le plus important est porté par vous, le peuple congolais, le Front populaire. Il est fondamental de donner à cette guerre la force de notre unité, celle où chaque Congolais se mobilise de toutes parts, à la hauteur de sa capacité et de ses moyens pour défendre notre nation. Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir.
Cette campagne a été lancée en présence de quelques membres du gouvernement et d'autres couches sociales, dont des étudiants et des sportifs du pays. Entre-temps, sur place au Nord Kivu, un grave incident est survenu dans la nuit de vendredi à hier samedi à l'hôpital Île Africa de Goma. Des hommes armés identifiés comme des rebelles du M23 ont fait irruption dans cette formation sanitaire en plein centre-ville, sémant la panique parmi les malades et le personnel soignant. Les rebelles à la recherche des blessés de guerre ont investi l'hôpital pendant environ 5 heures du temps, emmenant certains blessés avec eux, d'après des témoins. Gisèle Cage nous en parle.
Ils ont sémé la panique, c'est le cas de le dire. La présence de ces inconnus a perturbé tout le monde sur place. Outre la brusquerie de leur incursion, ces individus armés ont tiré des coups de feu dans cet établissement où même les chuchotements sont parfois prohibés en raison de l'état de fragilité de certains patients, déplorent les témoins. Des blessés, des malades et même des accompagnants ont été malmenés avant d'être conduits hors des installations de l'hôpital sous la menace des baïonnettes selon des sources. Ces individus semblaient particulièrement intéressés par les blessés par balles, présumant qu'il s'agissait des militaires blessés lors des combats. Ils ont imposé leur présence à l'hôpital pendant environ 5 heures, de 23h à 3h du matin ce samedi. Ce n'est qu'après avoir identifié les personnes ciblées que ces hommes armés se sont retirés, émenant avec eux quelques malades et autres personnes jugées suspectes. Jusqu'en début d'après-midi ce samedi, l'incident à l'hôpital Île Africa de Goma continuait d'alimenter les conversations, tantôt sur la violation du droit international humanitaire, tantôt sur la désacralisation des hôpitaux qui devraient être épargnés des attaques armées, même en temps de guerre.
Et puis cette rencontre essentielle entre la coordination du pacte social SENCO-SCC et les représentants des associations socioculturelles et intercommunautaires de la RDC, ils ont échangé hier au centre interdiocésain de la Gombe à Kinshasa. Objectif, approfondir la compréhension des enjeux et renforcer l'adhésion à cette initiative visant à instaurer un climat de paix durable dans le pays. Depuis février, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et de l'Église du Christ au Congo SCC mène une série de consultations sous l'égide du pacte social pour la paix. Ce processus les a conduits à échanger avec des acteurs clés, dont le président Félix-Antoine Tshisekedi, le président rwandais, les dirigeants du M23 et plusieurs figures de l'opposition politique congolaise, y compris celles en exil en Europe. Cette initiative vise à explorer des solutions pacifiques pour mettre un terme à la crise persistante dans l'est de la RDC. Dans l'actualité aussi, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a clôturé son séjour hier à Beni. Jean-Pierre Lacroix a déclaré être venu pour réaffirmer le soutien de la MONUSCO aux autorités congolaises, en particulier celle du Nord Kivu, en cette période critique marquée par l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda. Reportage de Guylaine Kassassia.
Nous sommes arrivés principalement pour exprimer notre soutien aux autorités congolaises et surtout pour une mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies, a expliqué Jean-Pierre Lacroix à la fin de sa visite ce samedi à Beni au Nord Kivu.
C'était l'occasion de passer des messages importants sur notamment notre détermination à pousser en faveur de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, avec des messages importants qui portent notamment sur la nécessité d'une cessation des hostilités, des engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons rencontré les autorités locales, le gouverneur, et nous avons exprimé notre plein soutien aux efforts à la fois sur le plan sécuritaire et aussi sur le plan de la protection des civils.
De son côté, le gouverneur du Nord Kivu estime que cette visite est un signe qui parle. Général Evariste Kakule Somo.
Pour nous, c'est une visite qui tombe à point nommé dans ce contexte, d'autant plus que la MONUSCO est un partenaire stratégique et vous avez entendu que maintenant, le quartier général de la force des Nations Unies en RDC sera basé temporairement à Beni, ce qui est un atout majeur en termes de sécurisation de la population. C'est un signe qui parle.
Jean-Pierre Lacroix est arrivé dans un contexte où la province de Nord Kivu fait face à une crise sécuritaire causée par les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Justice. Au procès des forages et lampadaires, la défense de l'ancien ministre condamné à 3 ans de prison continue de contester cette condamnation prononcée lundi par la Cour de cassation. Lors d'une conférence de presse tenue samedi à Kinshasa, l'avocat principal du condamné a annoncé qu'une requête sera déposée prochainement auprès de la Cour constitutionnelle pour innocenter son client. Le compte-rendu de Dona Madimba Mbaya.
Professeur de droit et membre du collectif des avocats de François Rubota, Raphaël Nyabirungu, qui a animé la conférence de presse de ce samedi, rejette la tentative de détournement et le conflit d'intérêts, les deux accusations portées contre son client, l'ancien ministre du Développement Rural condamné. L'enseignant considère qu'en reconnaissant l'innocence de Mike Kasenga présenté comme détourneur de fonds publics, il ne peut donc pas exister de complice d'un détournement non prouvé. Pour ce qui est du conflit d'intérêts, Raphaël Nyabirungu continue continue d'expliquer que François Roubota a trouvé ce projet de forage déjà approuvé par le ministre qui l'a précédé. Il considère le refus de la justice d'entendre ses arguments comme un refus de dire le bon droit. Aussi annonce-t-il de saisir la Cour constitutionnelle pour l'interpeller sur ces questions. Des jurisprudences existent, a-t-il soutenu.
Direction l'Ituri, l'unique chaîne de radio communautaire Umoja, située dans le village de Mungamba, chefferie de Walesevankutu, est réduite au silence depuis 5 mois maintenant. En cause, un incendie qui a ravagé tout le matériel, y compris les émetteurs en septembre dernier. Cette situation prive des milliers d'auditeurs, principalement des agriculteurs, des informations locales essentielles dans cette région en proie à l'insécurité des groupes armés dont les EDF. Reportage de Ezekiel Mousalia.
Les installations de ce qu'on appelait Radio Communautaire Umoja RCU Mungamba sont devenues aujourd'hui un lieu de rendez-vous pour les rats et souris qui vont et viennent dans tous les sens. De la réception à la salle de rédaction jusqu'à la cabine technique, toutes les machines, quelques ordinateurs ainsi que des chaises, tout est couvert de poussière. Cela fait aujourd'hui 5 mois que la Radio Communautaire Umoja n'émet plus. Déception de cet habitant.
Cette radio nous aide beaucoup ici. Nous sommes dans une zone d'insécurité. Et beaucoup de gens n'ont pas de téléphone Android pour accéder à l'information. Voilà, elle n'aimait plus.
L'un des responsables de cet outil de communication demande aux personnes de bonne volonté et aux ONG de leur venir en aide pour relancer le signal en vue de permettre aux habitants d'accéder à l'information locale. Gerson Mapassa.
La population avait fini par comprendre que la radio est importante dans ce village ici. Depuis que la radio n'aimait pas, ça fait quasiment 5 mois. C'est difficile de réparer ces appareils-là. Je vais demander simplement aux autorités de nous prêter main forte pour que nous puissions continuer.
La radio communautaire Umoja a été créée en 2018 à l'initiative des agriculteurs en Mungamba, une entité de la chefferie de Walesevankutu secouée par l'activisme des ADEF. De retour de Mungamba, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Kwilu. Les cours sont suspendus dans plusieurs écoles de la commune rurale de Paikongila, territoire de Massimanimba. Les bâtiments et toitures de ces écoles ont été endommagés par une pluie diluvienne accompagnée des vents violents qui s'est abattu sur la cité le 25 février dernier. Information livrée par Dario Kimukedi, ancien député provincial du Kwilu et leader communautaire. Il sollicite l'intervention tant du gouvernement provincial que national pour aider ses élèves qui risquent de n'est pas terminé l'année scolaire en cours. Irène Mboma, reportage.
Bâtiment partiellement ou complètement écroulé, toiture emportée, objets classiques et autres matériels endommagés, tels sont les dégâts signalés après cette pluie diluvienne mardi dernier dans plusieurs établissements scolaires de la commune rurale de Paikongila. Les sources locales citent entre autres l'EPE Ngizulu Kisumbu, l'EPE Kikatangima, l'EPE Lutondo, l'Institut Paikongila et l'Institut Betonabeto. Du coup, les élèves de ces écoles sont dans l'impossibilité de suivre les cours faute de salles de classe. L'ancien député provincial du Kwilu, Dario Kimukedi, qui livre l'information à Radio Okapi, lance un SOS auprès des autorités pour venir en aide à ces écoles afin de permettre aux apprenants de reprendre les cours et sauver l'année scolaire.
On dénombre d'importants dégâts matériels. En appelant à l'assistance du gouvernement central et plus particulièrement du gouvernement provincial du Kwilu.
Outre les établissements scolaires, la même source parle aussi des maisons d'habitation des paisibles citoyens, des églises ainsi que de l'Institut supérieur pédagogique ISP Paikongila qui ont été touchés par cette pluie ayant aussi occasionné des inondations dans ce coin du territoire de Massimanimba au Kwilu. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le mois de mars, mois de la femme, vient de débuter. Cette année, le thème national pour célébrer la journée des droits de la femme est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. En prévision du 8 mars, le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé une journée d'information vendredi à Kinshasa. C'est en marge de la participation de la délégation de la RDC à la 69e session de la Commission de la condition de la femme à New York le mois prochain. Un panier a été présenté comme support de communication et de sensibilisation en solidarité avec les femmes et filles victimes des atrocités dans l'est du pays. Détails dans ce reportage de Moudoumbi Benjamin et Ben Chokuta.
Cette rencontre est une occasion d'échanger sur les activités phares qui seront organisées tout au long du mois de mars et qui visent la promotion d'égalité de sexe, de paix et l'autonomisation des femmes et filles. Suivez à ces sujets Esther Kamoya, secrétaire générale au ministère des Genres, Familles et Enfants.
Cette année, le thème c'est pour toutes les filles et les femmes, le droit à l'égalité et à l'autonomisation. Et au niveau national, nous avons choisi la Congolaise au centre de toutes les ambitions.
Pour sa part, Madame Lydie, activiste et point focal de synergie de la société civile des femmes et coordinatrice d'une organisation de défense des droits de la femme et de la jeune fille, s'est dit satisfait de la représentation des femmes congolaises à la 69e session CSW à New York aux États-Unis d'Amérique.
Demandons à ce qui est les femmes qui vont nous représenter d'un système qui aura vraiment un accompagnement et une implication vraiment sincère.
Pour toutes les femmes, vie, droit, égalité et autonomisation est la thématique retenue par les Nations Unies pour la célébration des droits des femmes pour l'année 2025.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan, les enfants dans l'ombre d'un conflit meurtrier dans un hôpital d'Omdurman. Les enfants blessés par les explosions et les combats hurlent de douleur. L'armée soudanaise poursuit ses efforts pour reprendre la capitale Khartoum aux forces paramilitaires de soutien rapide. Mais la reconquête s'effectue à un coût humain et matériel élevé. Le pays est plongé dans une violence sans fin et les enfants, pris entre les feux croisés, paient le prix le plus lourd de cette guerre. Ils se retrouvent au cœur du conflit, les premières victimes de cette violence qui ravage leur pays, leur famille et leur avenir, indiquent des sources sur place.
L'invité.
Nous sommes au Kasaï oriental. Des ateliers de vulgarisation de la loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents et fonctionnaires de l'État ont débuté vendredi à Mbujimayi. Les enseignants de la province éducationnelle Kasaï oriental 1 ont été les premiers informés sur les innovations intégrées dans cette nouvelle loi par les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSAP, antenne de Mbujimayi. Amsini Sharon, chef de département à la CNSAP, s'entretient à ce sujet avec Esther Ndalafi.
Bonjour Madame Amsini Sharon, vous venez de terminer une sensibilisation à l'intention des fonctionnaires de l'État. De quoi était-il question ?
Oui, merci Madame. La sensibilisation d'aujourd'hui était basée sur la vulgarisation de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant justement sur le régime spécial des sécurités sociales des agents publics de l'État.
Et lorsqu'on parle de sécurité sociale, qu'est-ce que nous pouvons retenir ?
Sécurité sociale, c'est tout. En quelques mots, je pourrais dire que c'est tout ce qui est protection sociale. C'est-à-dire déjà dans notre constitution, il y a des articles qui stipulent bien que tout travailleur doit être couvert par une sécurité sociale. Tout ce qui concerne l'après-service, lorsqu'il y a cessation définitive de service, il doit être garanti qu'il aura une pension qui pourra lui permettre de bien vivre et de ne pas sombrer dans une misère.
Et par rapport à la loi sur la sécurité sociale, quelles sont les grandes lignes de cette loi?
Les grandes lignes de cette loi, c'est que la loi ressort d'abord la matière qu'elle traite, c'est-à-dire les différentes catégories d'agents publics de l'État qui sont prises en charge dans cette loi. Nous avons les différentes innovations de la loi qui justement vient pallier au caractère restrictif qu'on retrouvait dans la loi du 15 juillet 2016, elle qui était une loi à caractère inégalitaire où les agents publics n'étaient pas pris en compte. Justement, la loi de 2022, voilà, ouvrir ses bras et apporter vraiment une grande couverture de protection sociale aux agents publics de l'État.
Quels sont les objectifs de CNSAP?
Les objectifs de CNSAP, c'est d'abord de garantir aux agents publics de l'État une retraite honorable après leur bon et loyaux service rendu à la République.
Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport aux innovations qui ont été intégrées dans la loi?
D'accord. Par rapport aux innovations, vous n'êtes pas sans savoir que avant l'avènement de cette loi, la retraite était gérée par les différents statuts des agents publics, ce qui faisait qu'on avait affaire à un régime octroyé, c'est-à-dire chaque agent se retrouvait avec une certaine pension qui lui était octroyée, parfois qui était très minime et qui n'avait rien d'un salaire de remplacement. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, nous avons affaire à un régime contributif. L'État contribue à hauteur de 8% et l'agent lui contribue à hauteur de 4%. ce qui nous fait au total 12%. Et à la fin, lorsqu'il y a cessation de service, l'agent public se retrouve avec une pension qu'on peut estimer à pratiquement 40% ou 46% des derniers salaires perçus en carrière. Les agents aujourd'hui, peut-être si vous aurez interviewé certains, lorsqu'ils vont en retraite, ils ont en tout cas une pension honorable qui leur permet de bien survivre après la retraite.
Quelles sont les catégories d'agents qui sont concernés par la sécurité sociale?
Nous avons les agents de carrière des services publics de l'État, nous avons les magistrats, nous avons les militaires, nous avons les policiers, nous avons les corps administratifs de l'EPST, ainsi que les enseignants bien sûr, et nous avons aussi les corps administratifs techniques professionnels de l'ESSU.
En cas d'accident, des risques professionnels, comment procéder pour bénéficier des prestations de réparation?
Alors, pour bénéficier de prestations de réparation, il faut déjà être agent public de l'État. Il faut être enregistré à la CENSAP. Et pour être enregistré, il faut passer dans tous nos bureaux CENSAP. Ici, aujourd'hui, en Mbujimayi, notre agence qu'on a tout récemment inaugurée par le VPM, le ministre de la fonction publique. L'agence se trouve juste en face de la Banque centrale. Je pense que c'est une référence que plusieurs connaissent. Et dès que vous arrivez là-bas, si vous n'êtes pas immatriculé, vous vous faites immatriculer. Et c'est à partir de ça que vous pourrez bénéficier de toutes ces prestations liées aux risques professionnels. Il faut juste établir que c'est un accident réellement professionnel ou c'est effectivement une maladie professionnelle. Et si tel cas est établi, vous êtes pris en charge.
Et tout ça, ça peut prendre combien de temps pour toutes ces formalités?
Dès que vous arrivez et que votre dossier est bien constitué, que vous l'avez soumis, nous avons 30 jours pour vous répondre.
Madame Amsini Sharon, je vous remercie.
Merci madame, merci.
La chef de département à la CENSAP répondait aux questions de Esther Ndalafina depuis Mbujimayi. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.